Aude-Marie Lalanne Berdouti, qu'on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, alors certes à distance, mais à la librairie Mola, pour présenter votre récent ouvrage « Des hommes pour la guerre, la sélection médicale des soldats en 14-18 », publié à CNRS Éditions à Paris cette année, pour la bagatelle de 464 pages. Alors, vous êtes maîtresse de conférences à Sorbonne Université, Paris 4. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la Grande Guerre et plus particulièrement de la manière dont les médecins et la science médicale s'est adaptée à ce conflit. Ça peut paraître un sujet technique, mais en réalité, vous abordez une question brûlante de l'époque, à savoir ce moment du test d'aptitude pour des millions de soldats européens et, pour ce qui vous concerne, les deux pays que vous avez étudiés, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Et ce moment-là, il est essentiel parce qu'il pose la question de la manière dont le corps médical va autoriser ou non des milliers d'hommes à se rendre sur le front. Un livre tout à fait intéressant. Alors, avant de rentrer dans le récit de votre travail, j'avais une question liée à l'actualité éditoriale. Le centenaire 14-18, c'est 2300 livres publiés sur le thème de la Grande Guerre, c'est-à-dire un tsunami éditorial qui laissait craindre clairement un passage à vide énorme pour les années qui suivent. Et donc, ma question est simple. Comment on survit à un centenaire pour publier en 2025 un tel livre?
Alors moi, ce passage à vide, je ne l'ai pas réellement vécu. Le centenaire, c'est le moment où j'ai commencé ma thèse, qui portait donc sur la sélection médicale des recrues. Et j'ai commencé en 2013, au moment où le centenaire s'amorçait. Et ça a été plus qu'un... un défi, une véritable opportunité, parce qu'il y a eu d'abord une nouvelle génération d'historiens et d'historiennes qui travaillaient sur des sujets novateurs, qui renouvelaient en profondeur la manière dont on abordait la Grande Guerre. J'ai pu les rencontrer et ça a évidemment considérablement enrichi mon approche. Et puis, ça a été aussi un moment de diffusion du savoir historique en direction du grand public via des entreprises auxquelles j'ai pu participer. À l'époque, j'étais à l'université Paris-Nanterre et j'ai participé à l'élaboration du MOOC, qui était un cours massif, ouvert à tous, en ligne, sur la Grande Guerre, et qui a été suivi par plusieurs milliers de participants. Donc voilà, moi, en termes de centenaire, ça a d'abord été une opportunité. Ensuite, s'en est suivi ce potentiel trou d'air éditorial. Mais moi, à ce moment-là, je faisais ma thèse, je travaillais sur mon livre. Donc voilà, j'arrive en 2025, à ce moment où justement, je pense que le monde éditorial est peut-être davantage prêt à nouveau accueillir des ouvrages sur la Grande Guerre au regard de l'actualité. En ce moment, je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant de publier des livres sur la Grande Guerre dans la mesure où on a un retour du conflit sur le sol européen et que le regard historique peut, comme souvent, apporter de nouveaux éclairages sur ce qui se déroule en ce moment sur le continent.
Un bon tempo, donc vous avez été au bon moment pour passer ces années qui ont quand même vu des publications comme le livre de Nicolas Beaupré, etc. Il y a eu des publications sur 14-18, mais qui nous permet aujourd'hui de revenir vers le conflit et vers ces thématiques. On pourrait croire que tout a été dit, mais vous montrez bien par ce livre que ce n'est pas le cas. Alors, ce livre, revenons au début de la guerre peut-être, on sait très bien, on sait mieux aujourd'hui que la guerre de 14-18 était évidemment anticipée, évidemment presque inéluctable dans l'imaginaire de certaines personnes, mais que la guerre telle qu'elle s'est manifestée n'avait quasiment rien à voir avec ce qui avait été prévu, y compris chez les militaires qui avaient prévu une guerre, mais quand la vraie guerre arrive, la guerre de 14, puis la guerre de 14-15, ils n'avaient pas prévu ça. Pour ce qui vous occupe, c'est-à-dire le monde médical, comment ces médecins-là rentrent dans la guerre? Est-ce qu'ils avaient prévu ces choses-là? Est-ce qu'ils avaient prévu la gestion de ces masses de soldats? Comment ils avaient imaginé tout ça?
Alors, tout dépend du côté de la manche duquel on se place. Si on est côté français, on est quand même dans une société qui est à la veille de la Grande Guerre, à la fois préparée et impréparée à la guerre. Elle est préparée à la guerre parce que c'est une société de conscription. Donc, les casernes accueillent chaque année des milliers de soldats, des milliers de jeunes conscrits. Donc, on a l'habitude de faire passer cet examen d'aptitude à des masses importantes de soldats et on s'attend à les déployer de manière efficace sur le champ de bataille. De l'autre côté de la Manche, il en est tout autrement, puisque l'armée est une armée de métier, l'armée de terre en particulier, avec des dimensions très réduites, Et au moment où la Grande-Bretagne entre en guerre, il faut augmenter considérablement les effectifs. Et d'un point de vue institutionnel, matériel et logistique, l'armée britannique n'est absolument pas préparée à faire face à l'afflux d'abord de volontaires, puis dans un second temps de conscrits. Donc on a une société qui, sur le plan du recrutement militaire et sur le plan de la sélection médicale qui m'intéressait, voilà, était à la fois préparée parce qu'elle a aussi observé les conflits précédents. On a d'autres guerres d'ampleur qui ont suscité l'intérêt des officiers, mais aussi des médecins français comme britanniques. Je pense notamment à la guerre russo-japonaise qui a, en Mandchourie, vu arriver des observateurs envoyés par la France, et notamment des observateurs médicaux qui ont observé des modalités de combat qui ressemblaient quand même, à s'y méprendre, à celles qui se sont déployées sur les champs de bataille de 14-18, avec l'emploi massif de l'artillerie. Donc on a vu des choses. On s'est préparé dans une société quand même assez largement, en tout cas pour la France, acculturée à la guerre. Pour autant, par l'ampleur des pertes qu'elle occasionne et par la mobilisation totale des énergies qu'elle génère, la Grande Guerre est aussi une surprise qui vient mettre à mal les dispositifs existants et en particulier la sélection médicale des recrues.
Alors, de ce point de vue-là, merci pour cette réponse, hein, qui montre toujours qu'il n'y a pas d'évidence sur ce moment 14, puisqu'en réalité, il y a des préparations. Parce que si on dit les gens n'étaient pas préparés, on nous objecte et on a raison de dire, mais attendez, l'abaissement du service militaire 1913, enfin, on voit des sociétés qui sont déjà dans l'imaginaire de la marche à la guerre, et il n'en demeure pas moins qu'il y a ce choc. Et ça nous amène à une autre question qui est que on sait, il y a eu les travaux de Sophie Delaporte, que par exemple, les chirurgiens sont totalement percutés par les formes de la violence de la guerre industrielle, des atteintes corporelles, des blessures qui sont sans autre pareil par rapport aux conflits précédents, même s'il y a eu les évolutions de la guerre de sécession, des guerres coloniales, etc. Et pour ce qui est de vos médecins, et je pense qu'on rentre dans le cœur de la problématique de votre livre, on a le corps médical qui a ses propres normes, qui a ses exigences, qui doit maintenir en fait son univers, et de l'autre côté, l'armée qui, elle, a besoin du chiffre, qui a besoin du nombre. Est-ce que au moment où il faut s'adapter à ce flux continu d'arrivée de soldats, est-ce que les médecins baissent leurs critères? Est-ce que finalement ils abaissent les normes pour faire du chiffre et pour envoyer sur le front le plus de soldats, y compris des gens dont qu'ils n'auraient pas envoyé quelques années auparavant?
Oui, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une perte de la rigueur de la sélection, et ce, dès les premiers mois, dès les premières semaines de la guerre, pourrait-on dire, puisque ce conflit se révèle extrêmement meurtrier dans l'immédiat, en fait, dès l'ouverture des hostilités. À ce moment-là, les médecins et les autorités militaires se mettent à privilégier davantage, disons, la quantité des conscrits que leur qualité. Et ça se fait de plusieurs manières. Ça se fait par l'accélération de l'examen médical, hein, qui est un peu réduit à portions congrues. On a des témoignages, notamment en Grande-Bretagne, où ce jeune volontaire passe entre les mains du médecin en quelques secondes. Celui-ci appuie son oreille contre le thorax du jeune homme, le déclare apte, et il est envoyé sur le champ de bataille. Donc il y a cette accélération, cette réduction du temps consacré aux examens qui sont nécessairement plus hâtifs et donc beaucoup plus superficiels. On a aussi une modification un peu moins empirique, mais beaucoup plus officielle, c'est-à-dire que les critères du recrutement, les critères de l'aptitude sont modifiés. Et ils sont modifiés, et ça a été un peu une des surprises de mon travail, ils sont modifiés parfois de manière tout à fait non seulement officielle, mais aussi scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des débats dans la presse médicale spécialisée, il y a des débats à la chaire des sociétés savantes sur la manière dont scientifiquement on peut modifier ces critères du recrutement de manière à ce qu'on sélectionne toujours des soldats aptes, mais avec une aptitude, disons, adaptée au temps de la guerre. Et c'est vraiment les mots de l'époque. C'est l'aptitude du temps de guerre qui est opposée à l'aptitude, pourrait-on dire, du temps de la paix. Et ça passe par la modification des seuils. Alors, on a des seuils morphologiques, par exemple la taille qui est diminuée. L'âge également qui est peu à peu abaissé avec ce qu'on a appelé l'anticipation de la conscription, où les jeunes gens, au lieu d'être convoqués au moment où ils ont 20 ans, sont convoqués un an plus tôt, deux ans plus tôt. La classe de 1917, c'est-à-dire les jeunes gens qui auraient dû avoir 20 ans en 1917, sont en réalité convoqués dès 1915, pardon, alors qu'ils ont parfois à peine 18 ans. Et tout ça se fait dans un climat de débats véritablement scientifiques et de débats également politiques. Dans les rangs du Parlement, on a des débats extrêmement houleux sur la nécessité, la possibilité et l'intérêt, par exemple, de recruter ces très jeunes conscrits. Et enfin, cet abaissement de la sélection, cet allègement de la sélection, pourrait-on dire, se fait également par l'intensification du contrôle de l'aptitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que les jeunes gens qui ont été préalablement à la guerre ou au début de la guerre exemptés pour raisons médicales sont convoqués pour repasser de nouveaux examens, parfois plusieurs fois au cours de la guerre, et être parfois déclarés aptes, et même très souvent, on l'imagine bien, déclarés aptes. Et ça se voit par les chiffres, tout simplement. Entre 1889 et 1914, on a à peu près deux tiers en France des conscrits qui sont déclarés aptes. Si on regarde les jeunes gens qui ont eu 20 ans entre 1914 et 1918, ils sont déclarés aptes, eux, à plus de 90%.
Oui, et de ce point de vue-là, alors, le livre est très bien écrit, il est découpé en chapitres très clairs. Et on a aussi quand même un certain nombre de tableaux et de statistiques qui montrent bien dans les chiffres ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la manière dont petit à petit le ratio de soldats, enfin de jeunes hommes déclarés aptes augmente de manière assez visible. Et c'est vrai que c'est un des éléments que vous apportez, c'est un des résultats de ce livre, c'est de montrer à quel point, dans notre compréhension de 14-18, qui en fait n'est pas une guerre totale en 1914, mais le devient un petit peu plus tard, ben, ce que vous observez là, montre bien qu'il y a cette totalisation et comment le monde médical est emmené là-dedans. Alors, ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a un ressaisissement dans les années 17, notamment 17-18, que les médecins, voyant ce qu'ils sont en train de faire, reviennent un petit peu là-dessus. Et ça m'amène à une quatrième question qui est, on voit bien que là, il y a un peu des différences entre les deux modèles. Vous avez travaillé dans deux pays, les archives françaises, mais aussi les archives britanniques, à Oxford, etc. Est-ce qu'il y a deux modèles? Est-ce qu'il y a une manière française de gérer tout ça et une manière anglaise, ou est-ce que vous voyez des parallèles entre les deux pays que vous avez étudiés?
Alors, il y a à la fois des parallèles et à la fois deux modèles, pourrait-on dire. Il y a des parallèles parce que finalement, les deux pays sont confrontés aux mêmes exigences, et notamment à celle de reconstitution des effectifs du fait du caractère extrêmement meurtrier du conflit. Donc ça se fait de la même manière. L'augmentation du pourcentage de recrues déclarées aptes, elle s'observe dans les deux pays de la même manière. Ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont les sociétés vont réagir à cet état de fait. Et ça se fait de manière complètement différente en France et en Grande-Bretagne. Notamment parce qu'on est face à des sociétés qui sont acculturées à la guerre de manière extrêmement différente. On a en France une société qui est à ce moment-là assez proche du fait militaire, pourrait-on dire, puisque c'est une société de la conscription, où chaque année, les jeunes gens sont convoqués pour faire leur service militaire. Donc ils sont habitués, la société est habituée comme ça à fournir un contingent de jeunes gens chaque année. En Grande-Bretagne, ça n'est pas le cas. C'est une armée de volontaires qui introduit la conscription assez tardivement, en pleine guerre, en 1916. Et c'est au moment de l'introduction de la conscription que se révèlent les réactions et les antagonismes les plus forts. Alors, en France, évidemment, les médecins commencent à s'inquiéter de l'incorporation massive de ce qu'ils appellent des inaptes dans les rangs. Et pour ça, c'est assez intéressant parce qu'on ne peut pas dresser du corps médical un portrait tout à fait lisse et consensuel. On n'aurait pas d'un côté des médecins animés par cette fièvre patriotique qui enverraient sans aucun état d'âme des jeunes recrues affligée de handicaps terribles au front. On ne sait pas du tout ce qui se passe. On a, dès le début, des médecins qui s'en inquiètent et qui s'en inquiètent notamment au point de vue de la gestion sanitaire du contingent. Pourquoi ? Parce que la sélection médicale des recrues est conçue comme un dispositif prophylactique, c'est-à-dire comme un dispositif de prévention sanitaire. L'idée, c'est aussi, en sélectionnant les recrues, d'écarter celles qui pourraient être porteuses de maladies contagieuses, et donc de préserver la troupe par l'exclusion des porteurs de germes infectieux. Or, pendant la Grande Guerre, ce filtrage sanitaire, finalement, est considérablement affaibli et pénètre dans les rangs de l'armée des jeunes gens, notamment porteurs d'un fléau social qui inquiète beaucoup les médecins à ce moment-là, porteurs de la tuberculose. Et la tuberculose décime de manière importante, dès 1915, les rangs de l'armée française, au point d'inquiéter les Américains qui lancent la mission Rockefeller. Ça, c'est des choses assez connues. En revanche, ce qu'on connaissait moins et ce que j'ai montré dans le livre, c'est que cette irruption de la tuberculose au sein des troupes est attribuée par les médecins du moment à l'affaiblissement de la sélection. Et ce qui se passe, c'est donc ce qui pourrait relever de la gestion de crise sanitaire. L'idée est la suivante, il faut rétablir la sélection, rétablir la sévérité de la sélection pour éviter que la tuberculose et toutes sortes de maladies infectieuses n'emportent les soldats français. De l'autre côté de la Manche, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Il y a évidemment des considérations sanitaires qui entrent en ligne de mire, mais la réaction de la société civile est beaucoup plus importante. Dans un premier temps, ce sont des lettres des familles qui s'inquiètent de l'incorporation du père, du frère, du mari qu'on considérait et qui était connu comme un grand invalide de la société civile et qui est néanmoins envoyé au front. Et puis, petit à petit, ces inquiétudes sortent de la sphère familiale pour gagner la sphère médiatique, puis la sphère politique, et déclencher un important mouvement de contestation qui aboutit à une réforme d'ampleur qui n'est absolument pas comparable à ce qui se passe en France, où on a une série de petites mesures qui sont relativement limitées. En Grande-Bretagne, c'est un bouleversement sans précédent de la politique de recrutement qui est en réalité totalement ôté des mains des militaires pour être confié à des civils. Donc, on imagine le bouleversement. Les médecins, notamment, qui sont chargés de la sélection médicale des recrues, ne sont plus des médecins militaires en uniforme, mais sont tous des médecins civils, puisqu'on estime que l'influence de l'armée et de ses impératifs est délétère pour mener à bien une sélection qui soit à la fois scientifiquement juste et socialement acceptable.
Oui, ça, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien déjà la tension entre productivité, intensification, extensif-intensif, et le débat, bah, comme vous le dites, interne à la profession, de ils ont tous en ligne de mire la victoire et un effort de guerre profond, mais pas sur les mêmes logiques. C'est-à-dire certains sur le côté extensif et d'autres, au contraire, en disant c'est en envoyant des moins de recrues mieux sélectionnées qu'on gagnera tout ça. Et ça, c'est bien fait dans l'ouvrage. Alors, le livre, et puis on le voit bien dans les réponses que vous nous donnez, est fondé sur beaucoup d'archives d'associations médicales, archives militaires, archives de l'État. Mais vous faites aussi un passage par une histoire culturelle, une histoire par en bas du vécu, en fait, de ce test d'aptitude par les soldats. Et moi, bon, j'ai en tête, je suis spécialiste de l'Allemagne, mais j'ai en tête une terrible gravure de Georges Grosse où on voit les côté allemand, hein, donc c'est dans les années 20, on voit l'ensemble des militaires, un médecin qui sont en train de faire ce test d'aptitude sur un soldat en disant il est Kriegsverwendungsfähig, et Kriegsfähig, il est apte, et il est en train d'écouter le cœur d'un squelette, quoi. Et il y a vraiment cette image dans les années 20 du médecin comme en fait allié de la figure d'autorité militaire, figure détestée dans une certaine culture antimilitariste. Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que ce test d'aptitude, il est perçu comme un traumatisme, un envoi à l'abattoir? Enfin, comment les soldats perçoivent ça?
Alors d'abord, c'est vrai que l'examen médical d'aptitude est un vrai sujet important numériquement de la caricature et de la presse satirique. On en trouve énormément et moi j'en ai vu énormément. Alors on se moque évidemment du médecin comme figure d'autorité. notamment parce que l'examen médical d'aptitude est vécu de manière est vécu comme quelque chose de solennel et d'important dans la vie d'un jeune homme. Il faut imaginer déjà un cérémonial un petit peu impressionnant pour ces jeunes gens qui sont assez jeunes, on l'a vu parfois. Ils arrivent, pour ce qui est le cas par exemple de la sélection médicale en France, ils arrivent entièrement nus, en file indienne, les uns devant les uns derrière les autres, devant un comité constitué non seulement de médecins qui vont procéder à l'examen, mais aussi de différents représentants de l'État, maires, députés, qui sont là pour garantir le caractère démocratique du processus. Donc, devant cet aréopage, et c'est vraiment un terme qui est utilisé à l'époque, les jeunes gens impressionnés vont devoir subir un examen qui va décider de leur sort, non seulement de leur sort militaire, mais également de leur sort social. Parce que les décisions du conseil de révision, de cette assemblée de notables et de médecins, elles sont connues, elles sont commentées par la communauté villageoise, par la communauté urbaine, qui investit, de même que les jeunes recrues, cet examen de toute une série de significations. Des significations notamment sur l'état de santé du jeune homme, mais également sur sa capacité à constituer un bon époux, un bon père de famille. Donc on le voit, c'est un moment impressionnant pour ces recrues, pour ces potentiels soldats. Comment est-ce qu'ils perçoivent la figure médicale? Alors ça, c'est pas forcément toujours très facile de le dire, parce que les sources dont moi je disposais, ce sont des sources qui incitent à la prudence, pourrait-on dire, sur la manière dont on peut évaluer le sentiment des jeunes gens face au pouvoir médical. Les sources qui m'ont permis d'approcher l'expérience des recrues, ce sont notamment des sources, les archives des tribunaux d'appel britanniques, qui sont des dossiers dans lesquels les jeunes recrues font appel de la décision de la communauté du conseil médical qui a décidé de leur aptitude. Et en général, c'est pour voir la note qui leur a été attribuée. C'est une note d'aptitude qui va en gros de inapte à complètement apte, pour voir leur note dégradée. Donc sur plusieurs pages, parfois, ils écrivent de longues lettres pour faire la liste de toutes les déficiences qui, selon eux, auraient dû mener à leur exclusion du champ de bataille. Ce sont des lettres qui sont adressées en partie à des médecins et qui, du fait de cette adresse, entourent le corps médical de toute une série de précautions rhétoriques qui sont destinées à attirer finalement la sympathie des médecins. Donc ce n'est pas vraiment le lieu qui permet d'observer une vraie critique du pouvoir médical, même s'il y a une forme de remise en question de l'expertise de ces médecins. Donc ce n'est pas toujours facile d'approcher vraiment le sentiment de ces recrues vis-à-vis du pouvoir médical. Ce qui est très net, c'est qu'en revanche, on critique plus franchement la hiérarchie militaire comme responsable de ce qui est parfois perçu comme l'éserrement du corps médical.
Alors là, on voit bien, on entre dans votre sujet par quelque chose d'assez technique, histoire médicale, etc. Et on voit que c'est tout autre chose. C'est aussi un moment de vécu et pas n'importe quel moment pour des millions de soldats. 8 millions pour la France, 13 millions pour l'Allemagne, des 75 millions pour l'Europe. Et ce qui est intéressant, vous êtes aussi dans vos casquettes différentes, vous êtes aussi spécialiste de gender studies, d'études sur le genre, de travail sur les masculinités. Et ce moment du contrôle d'aptitude, il est aussi, vous l'avez rappelé, dans un moment de nudité où on voit les parties génitales, il est aussi un grand, grand moment de construction de la virilité, de construction d'une virilité normée, c'est-à-dire on fait des bons soldats, mais on fait aussi des hommes normaux, calibrés. Et donc, est-ce que dans votre travail, vous constatez... Parce que d'un côté, là vous répondez, et c'est vrai, il faut y penser, il y a tous ces gens qui viennent négocier sur le fait qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être envoyés au front, mais il y en a aussi, la guerre est tellement grande, qu'il y en a aussi qui protestent, je suppose, pour dire qu'ils sont totalement aptes et qu'ils veulent y aller. Comment se construit, quelle norme construit ce moment de l'aptitude de ce qu'est un vrai homme viril, qui est capable de combattre? Comment ça se constitue tout ça? Est-ce que ça laisse des marques chez ces hommes-là? Des hommes courageux et valables, et d'autres qui ne le sont pas, quoi.
Oui, alors c'est un moment important pour la création, la construction de l'identité masculine. de ces jeunes gens qui subissent l'examen médical d'aptitude. Ça, on le voit très très bien lorsqu'on regarde ce qui est investi, ce qui est cristallisé dans l'examen médical. Quand on regarde, par exemple, l'issue de cet examen, le moment où tous les conscrits ont passé leur évaluation, eh bien, les conscrits aptes célèbrent leur aptitude avec tout un ensemble de rites folkloriques. Ils revêtent des couvre-chefs avec des flots sur lesquels est marqué non seulement bon pour le service, mais également bon pour les filles. Et là, on voit bien ce qui se joue dans cet examen médical qui est investi par les recrues elles-mêmes d'une signification quant à leur capacité à prendre femme, à se montrer un époux performant. Ou un homme performant, d'ailleurs. Tout ça ne se passe pas, évidemment, systématiquement au sein des liens sacrés du mariage. Donc voilà, on a cet investissement de signification quant à l'aptitude sexuelle et l'identité virile des jeunes gens. Alors moi, ce qui m'a intéressée, c'était de rentrer un petit peu dans le détail de l'examen médical pour savoir si, dans les faits, ce qui était pratiqué au cours de cet examen médical pouvait vraiment aboutir à décerner ce que certains chercheurs, historiens et anthropologues ont appelé un brevet de virilité. Est-ce que les médecins poussent l'examen au point, effectivement, de déclarer si le jeune gens est apte aux relations sexuelles? Eh bien, ce que j'ai vu, c'est que pas vraiment. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, effectivement, on a des jeunes gens qui arrivent entièrement nus. Et dans l'examen qui est pratiqué par les médecins, on découpe le corps en différentes sections anatomiques qui font les unes après les autres l'objet d'un examen plus ou moins poussé. On l'a vu, notamment pendant la guerre, ça peut être extrêmement rapide. Mais en tout cas, en théorie, ces différentes sections anatomiques sont observées. Et il y a toute une série de recommandations très officielles sur la manière dont on doit examiner l'appareil génital des recrues. Alors, on y cherche bien évidemment tout ce qui peut empêcher l'activité de la marche, qui est une activité importante, notamment pour les fantassins. Mais on cherche aussi à décerner un certificat de conformité des organes génitaux. Pour être pleinement un homme et pour être déclaré apte à servir, il faut avoir un pénis, même de très petite taille, et au moins un testicule de forme et d'apparence normale. Alors ça, c'est assez intéressant. Et ça rejoint toutes les travaux de recherche des experts de l'époque, des ambivalences sexuelles, parce qu'il y en a des médecins qui sont entièrement spécialisés dans ce domaine-là. Et pour eux, l'existence du membre viril, l'existence du pénis ne peut pas suffire à déclarer qu'un homme est un homme. Il faut aussi constater la présence de testicules. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que les experts des ambivalences sexuelles de l'époque vont plus loin, en général, et s'intéressent à d'autres manifestations de la virilité. Ils s'intéressent à l'intégralité du corps du jeune homme, ils s'intéressent à la voix, et ils s'intéressent aussi à la dimension fonctionnelle de ces organes génitaux. Pour eux, pour ces experts, il ne suffit pas de constater la présence d'un pénis ou d'un testicule, il faut aussi que cet ensemble soit en état de marche et que l'individu soit capable de procéder à la pénétration. Or, c'est évidemment pas du tout ce qui intéresse nos médecins militaires qui se contentent d'une définition a minima de la conformité génitale des recrues. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure tout simplement que ce qui intéresse les médecins, c'est de pouvoir assigner sans aucune ambiguïté possible la jeune recrue au sexe masculin. Parce que seul ce sexe masculin est habilité à porter les armes. C'est le cas en France et en Grande-Bretagne. C'est différent ailleurs, mais en France et en Grande-Bretagne, c'est le cas. Seuls les hommes ont le droit d'être soldats. Il importe donc qu'on puisse... Sans aucune hésitation possible, dire « cette jeune recrue est un homme ». Tout le reste n'a pas d'importance. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire, au fond, que les recrues, que les communautés villageoises investissent l'examen médical d'une signification qui n'existe pas, en fait, dans l'esprit et dans la pratique des médecins.
Alors, merci pour cette réponse, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Vous montrez bien que de toute façon, ils n'ont pas le temps. Enfin, l'idée même qu'il puisse y avoir un contrôle de quoi que ce soit et illusoire vu ce côté très mécanique et rapide du rendement. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, enfin, peut-être vous avez ça dans vos sources, peut-être à un moment, je pense aux travaux de Fabrice Virgili sur 14-18 avec des figures, et je pense évidemment, bon, côté allemand, à Magnus Hirschfeld qui à l'époque réfléchit sur les hermaphrodites, sur tout ce qu'il appelle les intermédiaires sexuels. Est-ce qu'on a des exemples où en fait, au moment d'une aptitude, on découvre, je ne sais pas, une femme qui s'était cachée, qui avait voulu faire la guerre? Il y a des cas comme ça où c'est extrêmement rare ou des gens qui sont déclarés inaptes parce qu'ils ne cadrent pas dans cette définition de la virilité?
Alors ça, c'est difficile de savoir parce que moi, les sources sur lesquelles je travaille, c'est des sources statistiques avec des grandes catégories. Et donc, il y a une série de catégories qui est consacrée à l'appareil génital, mais c'est une catégorie qui englobe ce qu'on appelle à l'époque l'hermaphrodisme ou le pseudo-hermaphrodisme sous une étiquette qui est plus large, qui est celui de malformation génitale. Donc il est difficile de savoir s'il y a eu réellement des cas. En tout cas, j'en ai pas vu, mais on pourrait tout à fait, au détour d'autres types d'archives, sans doute tomber sur ce genre de cas. En revanche, je suis tombée sur un article de la presse satirique qui s'amuse du fait qu'il y ait eu une erreur d'inscription du sexe à l'état civil d'une jeune femme qui a donc à sa naissance été enregistrée comme homme et qui s'est vue convoquée au conseil de révision. Évidemment, elle n'y est jamais allée, mais la presse satirique de s'amuser, d'imaginer cette jeune actrice qui est d'ailleurs une star de théâtre du moment, arriver entièrement nue, sous l'œil ébahi et amusée du conseil de révision.
De l'aéropage. Ce qui est intéressant, bon, là vous le montrez très bien, c'est qu'il y a le rituel et la manière dont il est investi de significations énormes par les communautés, par les jeunes hommes, par les communautés. Ça m'amène, on arrive vers les questions de la fin, mais souvent, quand on étudie 14-18, dans un certain nombre de thématiques, on a l'impression que tout commence en 14 ou tout commence en 18. Alors, il y a le cas traditionnel, on pense que la mémoire de la guerre commence en 18, une fois qu'elle est terminée, alors qu'elle commence dès 14. Et vous, dans votre cas, vous l'avez déjà dit, mais je le répète, il n'y a pas une fois l'aptitude, et puis c'est terminé, on va 4 ans dans les tranchées. Et notamment, il y a cette question fondamentale des blessures, blessures dont on sait en 14-18 qu'elles sont terribles parce que la vélocité des balles, les types d'armement ont complètement fait muter la guerre. Un chiffre, un ordre d'idée, les guerres napoléoniennes, c'est 80% de soldats qui meurent de maladie. 14-18, c'est 85% de soldats qui meurent, vous me corrigez si je dis une bêtise, 85% de personnes qui meurent de blessures graves liées notamment au bombardement d'artillerie. Et ma question, c'est toujours la même chose. C'est donc vos soldats blessés plusieurs fois, je pense à Ernst Jünger, blessé 14 fois, ils repassent devant le conseil d'aptitude. Et dans ce cadre-là, est-ce que la blessure est un honneur, une atteinte à la virilité, une manière d'échapper au retour au front? Comment ça se passe, cette gestion des blessures parfois impressionnantes liées à l'exposition au feu?
Alors effectivement, une fois qu'ils sont remis sur pied, certains soldats peuvent être amenés à repasser devant le conseil de révision pour être déclarés aptes ou, le plus souvent, quand même, lorsque les blessures sont importantes, être déclarés inaptes. Le statut de la blessure, il est assez intéressant, et notamment celui de la blessure de guerre qui évolue au cours du conflit. Au début, alors on est quand même dans une société qui valorise énormément le corps productif. Et ça, c'est une évolution assez récente, en 1914, hein, qui date des deux dernières décennies du 19e siècle, où, dans une société qui s'industrialise énormément, on valorise le corps apte, le corps productif, le corps qui est capable de travailler. On imagine bien ce que ça peut donner qu'un homme invalide du fait de la guerre, lorsqu'il retourne à l'usine ou au champ et qu'il n'est plus capable d'effectuer sa charge de travail, on imagine bien ce qu'il peut ressentir à la fois socialement et intimement. Donc on a évidemment cette charge de la blessure qui est importante. Pour autant, la blessure donc change néanmoins de statut au cours de la guerre, où en 1916 se voit reconnaître un statut qui est celui de grand invalide de guerre, avec une nouvelle charge finalement pour cette blessure, qui est considérée comme la marque de la participation à l'effort de guerre et de la participation à la victoire. Donc ça, c'est assez intéressant à observer. On a un nouveau statut pour ces grands invalides de guerre qui sont pas complètement en marge de la société, mais intégrés d'une nouvelle manière à elle, avec une série de mesures, parmi lesquelles le développement de la rééducation, des aides prosthétiques et le développement de, et la, la mise en place d'emplois réservés, réservés aux grands invalides de guerre. Donc voilà, dans ce cadre-là, la blessure change de statut. Et je pense notamment à ce, ce moment de la signature du traité de Versailles qui s'est fait sous le regard d'une délégation de gueules cassées, ces grands invalides du visage, ce qui était aussi une manière de donner un nouveau statut à la blessure de guerre, de... d'incarner finalement la, l'horreur et le caractère dévastateur du conflit et de donner à ces soldats une, un nouveau lustre, une nouvelle identité qui reflèterait leur engagement dans le conflit.
Mmh. Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, là côté, on a la carte postale hein, de la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919 où on a les quatre soldats extrêmement... mutilés, qui sont là pour faire pression aussi sur la délégation allemande en leur rappelant « Regardez, voilà la guerre dont vous êtes responsable. » Ça m'amène vers une question bon, qui nous amène plus vers aujourd'hui. Et en, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste du passé, pas d'aujourd'hui, mais bon, sur ce sujet-là, je suppose que vous avez peut-être des choses à nous dire. Ce lien qui est inauguré, 14-18, inaugure beaucoup de choses dans notre siècle et dans notre siècle à nous. Et aujourd'hui, dans nos guerres très mécanisées, robotisées, guerres à distance, qui sont soutenues par tout un ensemble de technologies, est-ce que vous observez toujours ce rapport de la médecine qui dit quelque chose des corps aptes ou inaptes, et, ou ce lien-là, il a complètement disparu ?
Le rôle de la médecine, je dirais, est le même. C'est toujours de soigner, de préparer les troupes et de préserver le capital humain. C'est vraiment un auxiliaire d'optimisation des forces armées. C'est comme ça qu'est comprise la médecine, enfin qu'était comprise la médecine en 14 et qu'elle est toujours comprise aujourd'hui. La sélection médicale des recrues, elle existe toujours et elle est peut-être même dans certains domaines encore plus importante. Je pense notamment à l'aviation et aux pilotes de chasse qui sont soumis à des procédures de sélection extrêmement sophistiquée, extrêmement poussée, où on sélectionne, et ça c'est le cas très très vite dans la Première Guerre mondiale, d'ailleurs c'est là que naît la médecine aéronautique et la sélection médicale des pilotes. Ils sont soumis à voilà, des procédures extrêmement sophistiquées, avec un appareillage très complexe, mais toujours sous le regard de la médecine. Dans ce contexte-là, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, peut-être, c'est la massification de l'usage des drones et donc le déploiement d'armes qui sont pilotées à distance. Mais c'est plus un changement d'échelle qu'autre chose, j'aurais tendance à dire, parce que dès la Première Guerre mondiale, pour poursuivre ce parallèle, on a cette idée que la guerre se fait à distance par l'emploi massif de l'artillerie, par l'emploi des bombardements, où la mort, lorsqu'elle survient, est assez souvent anonyme. On ne rencontre plus son ennemi sur le champ de bataille. Et ça, au fond, si on pousse un petit peu le parallèle, c'est quand même globalement la même chose aujourd'hui. D'autant que malgré ce qu'une note récente de l'IFRI appelle la dronisation, que l'institution assimile à une nouvelle révolution militaire, les individus n'ont pas complètement disparu du champ de bataille. Parce qu'une fois qu'on a libéré la place, il faut bien occuper le territoire. Et on occupe le territoire encore aujourd'hui avec des troupes.
Merci pour cette réponse. Et puis, bon, il y a des pages intéressantes dans le livre aussi sur l'émergence de cette santé dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais comme ça, les spectateurs et spectatrices liront le livre, mais de la santé psychique, cette première, alors qui va être couronnée par 39-45, par vraiment la prise en compte de tout ça, mais dont on voit les prolégomènes dans votre travail, hein, de cette prise en compte de ce que peut être aussi, non seulement un corps sain, mais un esprit sain pour la guerre. Et c'est très intéressant. Alors, je terminerai par une question, on revient au début, hein, sur cette question du centenaire. J'ai le souvenir d'avoir reçu ici Stéphane Audouin-Rouzeau pour son livre sur l'après-centenaire, sur « Que devient 14-18 ?» Il était dans votre jury de thèse, un grand spécialiste de 14-18. Et vous le disiez au début, ce qui vous a permis de vous lancer et d'arriver là aujourd'hui, c'est aussi ce, ce collectif que vous avez fondé avec plein de jeunes chercheurs qui s'appelait Une plus grande guerre. Et donc, je vous pose la même question que je lui ai posée, c'est est-ce que ce centenaire, pour vous, dans, en 14-18, qui est tellement central dans la culture française, est-ce que le centenaire, ça a été le chant du cygne? Alors, je sais que vous voulez me répondre, parce que vous avez un intérêt à me répondre ça, mais peut-être pas. Est-ce que ça, ce centenaire, ça, vous avez l'impression que ça a été le chant du cygne de 14-18, ou au contraire, un grand moment de transmission et de renouveau de cette mémoire 14-18 en France? Vous êtes, voilà, vous avez votre observatoire qui est privilégié pour voir tout ça. Est-ce que pour vous, cette mémoire-là, elle est encore une mémoire vive, très vive?
Je trouve, à mon échelle, et de ce que j'ai pu observer, que c'est encore une mémoire très vive, qui suscite chez le tout venant, parfois, des passions tout à fait incroyables. Moi, j'ai rencontré, pendant le centenaire, dans le cadre de commémoration, des gens qui se précipitaient vers moi, parce que j'étais historienne de 14-18, pour me faire part des heures et des heures qu'ils avaient passées dans les archives, à la recherche de leurs ancêtres. Il y a, voilà, non seulement une passion, mais aussi une émotion réelle de la part de la société française face à ce qui est parfois qualifié comme une grande boucherie, mais qui est aussi une expérience vécue de manière très intime par toute une série de gens qui font des recherches sur ce qui s'est passé pour leurs ancêtres pendant ce conflit. Et oui, je ne pense pas que ce soit un chant du cygne. Je pense qu'en tout cas, cette mémoire, elle est très vivace, parfois alimentée par des gens qui n'ont pas nécessairement d'ailleurs connu les ancêtres dont il est question. Je ne sais pas ce qui va advenir de cette passion très française pour 14-18, mais en tout cas, en l'état, elle est tout à fait remarquable.
Et vous le constatez aussi du côté britannique ou pas du tout ?
Du côté britannique, elle est très vivace aussi, cette mémoire, tout à fait. Il y a encore des commémorations. Moi, quand j'étais en Grande-Bretagne, j'ai passé pas mal de temps à Oxford pendant ma thèse. Il y avait des commémorations très suivies. Il y a des associations qui perpétuent la mémoire du conflit. Et c'est tout à fait remarquable, outre-Manche également.
Aude-Marie Lalanne-Berdoutique, je pense que l'entretien l'a bien montré, il y a beaucoup de choses à apprendre et à tirer de votre livre, « Des hommes pour la guerre, la sélection médicale des soldats », CNRS Éditions, et je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci.
Mais merci à vous.
Au revoir.